L'avion est réservé. L'hôtel aussi. Une suite même. Le voyage sera long, mais on sait que le jeu en vaut la chandelle. Les plages sont magnifiques. On mange super bien. Mais après une grosse dispute, le mari annonce à sa femme: vas-y toi, finalement, je ne viendrai pas avec toi. C'est un peu ce que le peuple a dû ressentir au début du chapitre 33 du livre de l'Exode. Et ce matin, on va voir que ce chapitre nous parle de la présence de Dieu, nous parle de la proximité avec Dieu et nous aide à répondre à la question: comment marcher avec Dieu? Comment marcher avec Dieu? Et je vous propose que le texte nous donne trois pistes qui correspondent à trois parties. Je vais lire la première des parties, Exode 33, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles, pour ceux qui en ont une. Exode 33, je vais lire d'abord les versets 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse: va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob, en disant: je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Monte vers un pays découlant de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse: dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerai. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb. Première partie, marchons avec Dieu en nous débarrassant de nos idoles. Marchons avec Dieu en nous débarrassant de nos idoles. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là et qui s'en rappellent, le texte se terminait avec une question que posait Moïse au peuple. Moïse demandait au peuple, après l'épisode du veau d'or: qui est pour le Seigneur? Qui veut le suivre? Et c'est aussi la question qui nous était posée, qui nous était posée à la fin de la semaine dernière. Qui veut suivre le Seigneur? Mais aujourd'hui, le texte commence avec Dieu qui dit à son peuple: je ne monterai pas avec vous dans le pays. Et on voit que l'épisode du veau d'or de la dernière fois a cassé quelque chose entre le peuple et Dieu. Et on voit au premier verset que Dieu parle à Moïse et dit: va toi et le peuple que tu as fait monter d'Égypte. C'était pareil au chapitre 32 au verset 7. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Et ça contraste fort avec la manière dont Dieu se présentait au début du chapitre 20. Je suis le Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte pour être en ta présence. Et tu dois m'obéir. On se rappelle de cette promesse que Dieu avait faite avec Abraham. Et c'est en vertu de cette promesse que Dieu avait entendu les cris du peuple au début du livre de l'Exode. S'était souvenu de cette alliance avec Abraham. Il avait fait sortir du pays d'Égypte et de l'esclavage. Cette promesse, c'était quoi? C'était: je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, vous m'appartiendrez et vous habiterez le pays que j'ai promis à vos pères. Et dans ces premiers versets, Dieu dit, je vais te donner le pays. Je vais te donner la victoire sur tous tes ennemis. Je vais chasser de devant toi tous ceux qui habitent le pays pour que toi tu puisses l'habiter. Par contre, je ne viendrai pas avec toi. Je ne ferai pas partie du voyage. Et quand Dieu dit « je ne monterai pas avec toi », c'est sous-entendu, pas seulement pour le voyage, mais aussi lorsque nous serons arrivés dans le pays. Dieu est en train de dire à son peuple « je n'habiterai pas au milieu de vous ». Ça contraste avec les chapitres précédents, où pendant plusieurs chapitres, Dieu avait donné des instructions précises pour venir habiter précisément au milieu de son peuple avec la construction du tabernacle. Le tabernacle, c'était Dieu qui disait « je veux venir habiter au milieu de toi ». Et maintenant, Dieu dit à son peuple « je ne viendrai pas habiter au milieu de toi ». Pourquoi ? Parce que le peuple est rebelle. La nucrède, une expression un peu désuète, ça veut dire juste quoi ? Le peuple est rebelle. Le peuple est rebelle et Dieu dit « si je venais avec toi, si je venais au milieu de ce peuple rebelle, je vous exterminerai. » Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Et pendant tout le livre de l'Exode, on a vu la sainteté de Dieu. Et c'était même une des grandes questions du livre. Comment un Dieu saint peut habiter au milieu d'un peuple pécheur ? On a vu au chapitre 19 la manière dont Dieu descend sur la montagne. La montagne fume, tout tremble. Le peuple ne devait pas s'approcher. Il devait y avoir une limite. Parce que même si le peuple s'approchait de la montagne, ou si un animal touchait la montagne, il mourrait. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'approcher comme ça du Dieu saint. Il faut que Dieu nous donne les moyens pour que l'on puisse s'approcher de lui. Et c'est ce qu'il a fait avec le tabernacle, avec la manière dont les ustensiles sont fabriqués, sont consacrés pour le culte de Dieu. La manière dont les prêtres, comme on l'avait vu, devaient se préparer à rentrer dans le service pour Dieu. On ne s'approche pas comme ça de Dieu. Dieu est saint et il ne supporte pas le péché. Avec vous ce matin, j'aimerais voir plusieurs ironies dans le texte. Il me semble que le texte de l'Exode, le livre de l'Exode est plein d'ironies, et le texte de ce matin en particulier. Moïse était sur la montagne parce qu'il reçoit les plans du tabernacle pour que Dieu vienne habiter au milieu d'eux. Pendant ce temps, le peuple s'impatiente et se fabrique un dieu en forme de veau pour qu'il soit au milieu d'eux. Mais maintenant, à cause de cela, Dieu leur dit « je ne serai pas au milieu de vous ». Et le peuple sait que le pays promis, sans la présence de Dieu, ne sert à rien. En fait, la promesse de Dieu du pays, elle est liée à la présence de Dieu. À quoi sert un voyage de noces sans son époux ? Est-ce que la destination est toujours aussi attrayante ? Est-ce que les plages ont la même saveur ? La nourriture, le même goût ? Même le voyage ? On avait vu que Dieu promettait le repos à son peuple. Et ce repos, il n'est pas lié au pays en lui-même. Mais il est lié à la présence de Dieu au milieu d'eux. Sans Dieu, le pays promis ne sert à rien. Il y a quelque temps, je relisais un livre. Je suis tombé sur cette question posée par l'auteur John Piper, qui demandait, question toute simple, mais qui met beaucoup de choses en perspective, il demandait, serais-tu heureux au paradis si Christ ne s'y trouvait pas. Serais-tu heureux au paradis si Christ ne s'y trouvait pas ? Et la question peut paraître absurde, certains d'ailleurs n'ont pas manqué de me le faire remarquer. C'est absurde, mais ça révèle nos idoles. Est-ce que l'idée du paradis me plaît parce qu'il n'y aura ni souffrance, ni mort, ni maladie, ni pleurs ? Est-ce que l'idée du paradis me plaît parce que Je retrouverai mes proches qui avaient la foi. Est-ce que l'idée du paradis me plaît parce que la vie sera douce, alors qu'ici elle est dure? Est-ce que c'est la présence de Christ qui donne au paradis toute sa saveur? Et sans parler du paradis, sans parler de plus tard, aujourd'hui, est-ce que j'aime Dieu ou ce qu'il me donne? Est-ce que j'aime Dieu pour ce qu'il me donne? Et c'est la question à laquelle devait répondre le peuple à ce moment-là, au pied de la montagne. C'est la question aussi qu'on a à se poser aujourd'hui encore. Mais le peuple le savait, si Dieu n'est pas avec nous, alors ce pays dont on nous parle, plein de lait, plein de miel, plein d'abondance, il n'a plus la même saveur. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même notre trésor. C'est Christ notre trésor. C'est lui notre espérance. C'est lui notre joie. C'est lui notre richesse. Et sans lui, rien ne vaut la peine. Et le peuple l'a bien compris, le peuple est triste, le peuple est abattu. On le lit au verset 4, il prie le deuil. Il retire ses ornements. Et on a encore une ironie. Au chapitre précédent, le peuple retire ses ornements pour pécher, pour fabriquer le veau d'or. Ici, le peuple retire ses ornements à cause de son péché. La première fois, les ornements ont été retirés en signe de désobéissance. Et cette fois-ci, ils sont retirés en signe de repentance. Alors c'est possible qu'il y ait un lien plus étroit entre les ornements et l'idolâtrie. Peut-être étaient-ce des ornements retournés d'Égypte. Dans tous les cas, Dieu leur dit « Débarrasse-toi de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire ». Et le peuple décide de se débarrasser de tout lien avec l'idolâtrie. Parce que si il sait que si on veut suivre Dieu, il faut abandonner nos idoles. On ne peut pas vouloir marcher avec Dieu en portant nos idoles. Et à partir de ce moment-là, le peuple avancera sans ornement. Le verset 6 est souvent mal traduit. Il devrait être rendu par « Ainsi les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à partir du mont Horeb ». La vérité, c'est que à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du voyage, le peuple n'a plus ses ornements. Et nous, on se dit parfois, je sais que je dois encore régler ça, mais je le ferai plus tard. Ou on se dit parfois, je sais que je dois m'approcher de Dieu, ou je sais que je dois me rapprocher de Dieu, mais je dois encore régler ça ou ça. Et le texte nous rappelle, avec toute la Bible, qu'on ne peut pas suivre Dieu sans se débarrasser de nos idoles. Et on ne peut pas se débarrasser de nos idoles sans se tourner vers Dieu. On ne peut pas suivre Dieu, on ne peut pas avancer avec Dieu sans se débarrasser de nos idoles. Et on ne peut pas se débarrasser de nos idoles sans se tourner vers Dieu. Je continue la lecture à partir du verset 7. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Il appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre, qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune assistant Josué, fils de Noun, ne bougez pas à l'intérieur de la tente. Deuxième piste pour ce matin, marchons avec Dieu en écoutant sa parole. On a encore, comme dans tout le livre de l'Exode, un magnifique exemple de la grâce de Dieu. Après l'épisode précédent, après la manière dont le peuple a craché au visage de Dieu, c'est l'illustration que Jean-Jacques prenait, et c'est vraiment ça. Dieu aurait pu décider de couper toute communication, d'arrêter de parler au peuple, juste se retirer. Mais on voit que il permet de dresser une tente en dehors du camp. En dehors du camp. Mais il permet de dresser une tente pour qu'on puisse venir le rencontrer. Malgré le péché, malgré l'idolâtrie, malgré la rébellion, malgré la désobéissance, Dieu vient à la rencontre de son peuple. Par sa grâce. Seulement par sa grâce. Encore une fois, on a l'illustration que Dieu s'adresse à nous seulement par grâce. Et Dieu permet d'avoir une relation avec lui seulement par grâce. Et la Bible nous dit de manière plus claire que nous étions pécheurs, perdus, aveugles, esclaves, morts, que nous ne méritions rien. Mais Dieu s'est approché de nous. Dieu vient à notre rencontre. Et on a encore une ironie, ça fait beaucoup, mais c'est pas la dernière. On a encore une ironie ici. Au chapitre précédent, le peuple se fabrique un Dieu qu'il peut voir mais qui ne parle pas. Et ici, on voit que l'Éternel est un Dieu qu'on ne peut pas voir mais qui parle. Et on voit encore une fois qu'à chaque fois que Dieu se manifeste, c'est pour parler. À chaque théophanie, c'est le gros mot qu'on avait vu ensemble pour voir la manifestation de Dieu. À chaque fois que Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre, c'est pour parler à son peuple. Parce que nous avons un Dieu qui parle et qui parle clairement. Et le vrai problème des Israélites, c'est pas qu'ils voulaient voir Dieu, c'est qu'ils ne voulaient pas l'écouter. C'est ça le vrai problème. Et ce qu'ils disaient était clair, mais ils ne l'ont pas écoutez. Mais Dieu continue de vouloir leur parler. Dieu continue de pourvoir à un moyen qui permet au peuple de venir le rencontrer, qui permet au peuple de venir l'écouter, malgré leur rébellion. Et si quelqu'un voulait consulter l'Éternel, il sortait du camp, il allait voir Moïse, et Moïse allait voir Dieu pour lui. Parlez avec Dieu. Et revenez et donnez la réponse à celui qui avait demandé quelque chose. Et il y a une expression répétée qui est magnifique. Verset 9 et verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse. Quand j'ai vu ça, je me suis arrêté, j'ai fait waouh. L'Éternel parlait avec Moïse. Et le texte va plus loin et précise. Face à face, comme un homme parle à son ami. C'est magnifique. Face à face, on voit que c'est pas littéralement, parce qu'un peu plus loin, Dieu dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais on comprend bien l'expression qui souligne la proximité avec Dieu, la relation qu'il existait entre Moïse et Dieu, et le dialogue direct qui s'instaurait à chaque fois que Moïse rentrait dans la tente pour rencontrer Dieu et la manière dont Dieu lui parlait face à face. Ils parlaient ensemble comme deux amis. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais le problème, c'est que si on doit faire un parallèle avec nous aujourd'hui, on est plus dans la situation du peuple que de Moïse. On aimerait bien être Moïse. Mais en fait, on serait plutôt du côté du peuple, si on devait faire le parallèle. Dieu parlait directement, mais pas à ceux du peuple. Il parlait directement à Moïse. Le peuple devait passer par un intermédiaire. Et on se dit, et je me suis dit, attends, mais moi aussi j'aimerais vivre ça. Moi aussi j'aimerais parler à Dieu comme à un ami. Moi aussi j'aimerais parler à Dieu face à face. Et en fait, je pense et j'espère qu'on aimerait tous avoir cette expérience de la rencontre avec Dieu dans l'attente, comme pour Moïse. Mais en disant ça, et en le disant de cette manière, en fait, on oublie nos privilèges. Et on oublie la situation dans laquelle on est vraiment aujourd'hui. On oublie que Jésus appelle ceux qui écoutent sa voix ses amis. Nous sommes les amis de notre Seigneur. Nous sommes les amis de notre Seigneur. Il nous parle dans sa parole, directement. L'Éternel, le Dieu de l'Exode, celui qui veut habiter au milieu de son peuple, habite en nous par son esprit. La Bible nous dit que nous sommes comme un tabernacle et Dieu vient habiter en nous. Et ce que nous vivons aujourd'hui avec Dieu n'est pas moins grand que l'expérience du peuple pendant l'Exode. Et on oublie parfois, j'oublie parfois peut-être la réalité que je parle à Dieu directement. Et que Dieu me parle directement. Et que ma proximité avec Dieu n'est pas moins grande que celle de Moïse dans la tente. Dieu nous parle dans sa parole et nous lui parlons par la prière. Et c'est pas moins réel. Et c'est pas moins fort que ce que nous lisons aujourd'hui, avec Moïse. Lire la Bible, c'est écouter Dieu nous parler. Et prier, c'est parler à Dieu. Lire la Bible, c'est écouter Dieu nous parler. Et prier, c'est parler à Dieu directement, sans intermédiaire. On avait évoqué les dernières fois la manière dont le lieu très saint, avec la présence de Dieu, était fermé par un rideau et où seul le grand prêtre, le grand sacrificateur, pouvait rentrer une seule fois par an. Et la manière dont la Bible nous montre que dans le Nouveau Testament, ce voile est déchiré. Que Jésus nous a offert un accès direct au Père. Et que cette relation de proximité, nous l'avons aujourd'hui. Cette capacité de parler à Dieu, ce privilège de pouvoir l'entendre directement, nous l'avons aujourd'hui. Nous sommes ses amis et il nous parle directement. Je continue la lecture du texte à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et même... tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai aussi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'Éternel ne peut pas me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Troisième partie, marchons avec Dieu en comptant sur notre médiateur. Marchons avec Dieu en comptant sur notre médiateur. Dans cette dernière partie, on a un dialogue entre Dieu et Moïse. Et une fois encore, on a l'intervention de Moïse auprès de Dieu. Moïse intercède auprès du peuple, de la part de Dieu, et auprès de Dieu, de la part du peuple. Et au chapitre précédent, Moïse intercédait déjà auprès de Dieu en lui demandant de pardonner son peuple qui avait péché. Et là, Moïse intercède avec force auprès de Dieu pour que Dieu accompagne son peuple, malgré son péché. Et Moïse va utiliser plusieurs arguments. Le premier, c'est qu'il va rappeler à l'Éternel que c'est son peuple. Et au chapitre précédent, il avait déjà utilisé cet argument, il avait rappelé à Dieu sa promesse. « Rappelle-toi, Éternel, la promesse que tu avais faite à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur avais dit, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Cette nation est ton peuple. » On avait vu la manière dont Dieu s'adresse à Moïse et dit « ton peuple » à Moïse. Moïse dit, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Ils ne m'appartiennent pas, ils t'appartiennent. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. Et il rappelle ce que Dieu avait promis au chapitre 19. Voilà, je vous ai fait venir à moi comme sur des aigles d'aigle pour que vous soyez mon peuple. Pour que vous soyez mon peuple. Et Moïse dit, on ne peut pas être séparé de toi. Tu nous as sauvés pour être en relation avec toi. C'est ce que tu nous avais promis. Nous sommes ton peuple parce que tu es notre Dieu. C'est ce que tu nous avais promis. Et Dieu répond au verset 14, d'accord, je marcherai avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse revient à la charge. Il dit, mais ne marche pas seulement avec moi, marche avec nous. Avec nous, si tu n'es pas avec nous, alors à quoi bon partir? À quoi bon aller dans ce pays? À quoi bon bouger? Il est en train de dire à Dieu ce que le peuple disait. Si tu ne viens pas avec nous, alors le pays promis, même s'il regorge de toutes les beautés, même s'il regorge de toutes les saveurs, même s'il regorge de toutes les richesses, le pays promis ne sert à rien sans toi. Le repos, la joie sont liés à la présence de Dieu, pas à la destination. Si tu ne viens pas, nous ne bougerons pas. Et Moïse utilise un deuxième argument. Il dit, ce qui nous distingue de tous les autres peuples, c'est ta présence. C'est ta présence qui fait la différence dans ce que nous sommes. Et on a là une leçon. C'est pas parce que nous sommes différents des autres que Dieu est présent. Mais c'est parce que Dieu est présent que nous sommes différents des autres. C'est pas notre différence qui a fait que Dieu s'intéresse à nous. C'est parce que Dieu s'est approché de nous que nous sommes devenus différents. Et en fait, la différence que nous voulons montrer au monde autour de nous, c'est pour témoigner de la présence de Dieu. Et c'est exactement ce qu'avait promis Dieu aussi au chapitre 19, encore une fois. Vous serez mon peuple, vous serez pour moi une nation sainte, un peuple de sacrificateurs, un peuple qui, tout entier, témoigne de la présence de Dieu aux autres. Quand les autres nous regardent, ils devraient se dire, Dieu est présent au milieu d'eux. Peut-être qu'ils ne le diront pas comme ça, mais peut-être qu'ils diront, il y a quelque chose de différent. Il y a un amour entre eux. Il y a une joie avec eux. Il y a une espérance. Et dans les deux cas, dans ces deux arguments que Moïse utilise, on voit qu'il base ses requêtes sur ce que Dieu a dit. Il n'invente rien de nouveau. Il est juste en train de redire à Dieu ce que Dieu lui avait déjà dit. Il est juste en train de prier Dieu à partir de la parole de Dieu. Il demande juste à Dieu ce que Dieu lui avait déjà promis. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Et c'est un grand encouragement pour nous. Non seulement parce que nous avons l'assurance que ce que Dieu nous a promis, il l'accomplira, et aussi parce que nous avons l'assurance que quand nous prions en nous basant sur la parole de Dieu, en nous basant sur ce qu'il nous a promis, nous sommes sûrs que Dieu nous donnera ce qu'il nous a promis. Nous avons l'assurance, nous pouvons prier avec confiance. Si nous prions pour plus de patience, nous savons que Dieu nous la donnera. Patience. Ce n'est pas mon deuxième prénom, ni mon troisième. Une fois, j'étais à Paris pour une journée de travail. Et j'étais arrivé un peu tôt et j'étais assis dans un café. Et puis j'ai ouvert un livre, un très bon livre, qui s'appelle « Pas si grave » de Jerry Bridges. « Pas si grave », le sous-titre c'est « Ces petits péchés que nous tolérons ». Et dedans, il parlait de la patience. Et il parlait plutôt du péché d'impatience. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis senti concerné. Ben si, je sais pourquoi, c'est parce que l'Esprit de Dieu était en train de me dire, tu vois, tu lis ça, peut-être tu devrais le lire tranquillement, faire une pause à chaque phrase. Et ce matin-là, j'étais convaincu de mon péché d'impatience, et Dieu m'a rappelé toutes les fois où, au lieu de témoigner de sa patience à mon égard, je témoignais d'impatience à l'égard des autres. Et finalement, j'étais en train de leur dire, mais je suis plus important que vous. Pourquoi tu me laisses pas passer? Pourquoi tu roules si lentement? Des sentiments que vous ne connaissez pas. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi de la patience. Donne-moi la patience. Et j'ai prié avec confiance parce que je savais que Dieu veut que nous soyons patients, que ça fait partie des fruits, ça fait partie de ce que nous déployons quand Dieu nous transforme. Le soir, je rentre. Alexandra, mon épouse, vient me chercher à la gare. On s'engage sur l'autoroute. Et après 300 mètres, on s'arrête. Et je regarde et je dis, waouh. On ouvre une application et on voit le gros trait rouge jusqu'à la sortie d'autoroute. Et on est resté comme ça 1h30 dans la voiture. Et alors que je sentais en moi grandir l'impatience, je me suis souvenu de la prière que j'avais faite le matin. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, si je veux être plus patient, Dieu va me donner des occasions d'être plus patient. Il faut que la patience s'éprouve, il faut que la patience grandisse. Et pour qu'elle grandisse, il faut des épreuves comme ça. Celle-là a été petite, j'en attends de plus grande, mais avec l'assurance que Dieu me donnera ce qu'il m'a promis. Dieu a entendu Moïse et Dieu consent à lui donner ce qu'il demande. Mais le texte nous donne une autre raison que les arguments de Moïse. Aussi fort soit-il, aussi bien fondé soit-il, le texte ne nous dit pas que Dieu a été convaincu. Le texte nous dit que si Dieu finit par faire ce que Moïse lui demande, c'est grâce à Moïse. Au verset 17, il dit « Car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Et ce que Dieu donne au peuple, encore une fois, c'est grâce au mérite de son médiateur. Et de la même manière pour nous aujourd'hui, la faveur de Dieu qui repose sur nous, c'est le fruit de notre union à Christ. Dieu prend plaisir en Jésus et en tous ceux qui se confient en lui. Dieu prend plaisir en nous parce que nous sommes en Christ. Christ est notre médiateur parfait et il nous a obtenu la faveur de Dieu. Et si Dieu nous regarde avec amour, c'est grâce à Christ. Et parfois, on peut se sentir abattu comme le peuple. Peut-être particulièrement quand, comme le peuple, on a désobéi Dieu. Peut-être on s'est laissé aller à l'idolâtrie comme lui. On a fait d'autres choses la source de notre joie, de notre plaisir. Peut-être que on est éloigné de Dieu. Et le texte nous rappelle, et toute la Bible nous rappelle, que la faveur ne dépend pas de ce que nous faisons, mais la faveur de Dieu dépend de ce que Christ a fait. On peut parfois se dire, je suis nul, ou je suis oublieux, ou je suis rebelle. Mais alors de suite, il faut se dire, mais Christ est parfait. Et Christ a tout accompli. Et Dieu me regarde de la même manière qu'il regarde Christ. Ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux. On l'a vu, ça passe par la repentance. Si on veut marcher avec Dieu, on doit se détourner de nos idoles. Et pour se détourner de nos idoles, on doit se tourner vers Dieu. Mais quand on se tourne vers Dieu, on peut le faire avec assurance. On peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ est parfait. Christ est notre médiateur parfait. Que Christ nous a obtenu la faveur de Dieu. Et quand Dieu nous regarde, il prend plaisir en nous. Et ça vaut tous les stages de confiance en soi du monde. Et c'est une réponse que personne d'autre que Dieu lui-même ne pourra nous donner. Une nouvelle qui nous donne confiance. Pas dans ce que nous sommes, mais dans la bonté et dans la grâce de Dieu. Je vais passer rapidement sur la dernière partie du passage à partir du verset 18 à 23. Juste noter deux choses. La première chose, c'est que Moïse demande à voir Dieu et Dieu lui répond quoi ? Dieu lui répond, tu vas m'entendre. Moïse, il dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, je vais proclamer mon nom. Dieu parle et se révèle dans sa parole. Et Jean-Jacques nous le montrera au chapitre suivant. Dieu proclame son nom et sa grâce souveraine. Et partout dans le livre de l'Exode, et partout dans la Bible, on voit Dieu en l'écoutant. On voit Dieu en l'écoutant parce que Dieu se révèle par sa parole. Deuxième chose, Moïse ne voit pas la gloire de Dieu, en tout cas pas telle qu'il voulait la voir. Sinon, il mourrait. Et on voit une progression, une espèce de crescendo dans ce chapitre. On commence au début du chapitre, on nous parle du peuple, et on nous parle de ce dialogue entre Dieu et le peuple, et le deuil que prend le peuple. Ensuite, on a l'attente de la rencontre avec une proximité plus grande, où le peuple peut venir rencontrer Dieu par l'intermédiaire de Moïse dans l'attente. Et enfin, on a ce dialogue où on entend directement ce que Dieu dit à Moïse, ce que Moïse dit à Dieu. On a ce crescendo jusqu'à cette question, jusqu'à cette requête, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit oui, mais non. En fait, tout le monde veut voir Dieu. Tout le monde veut voir Dieu. C'est normal, c'est la chose à la fois la plus mystérieuse, la plus puissante, la plus belle. C'est la personne qui est pleine de grâce, pleine de compassion, qui peut tout, qui sait tout, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons comprendre. Même le peuple voulait voir Dieu. Et on se rappelle à plusieurs reprises, encore au chapitre 19, avant que Dieu ne descende, et après qu'il soit descendu, Dieu avertit Moïse en lui disant « Retourne vers le peuple et rappelle-leur qu'ils ne s'approchent pas, sinon ils mourront. » Il leur dit « Avertis solennellement le peuple de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder et qu'il n'en tombe un grand nombre. » Et c'est aussi pour ça qu'il voulait construire le veau d'or, parce qu'il voulait voir Dieu. On a déjà vu l'ironie, il voulait voir Dieu, mais pas l'écouter, alors qu'on voit Dieu en l'écoutant. Et on se rappelle de ce dialogue entre Jésus et ses disciples. Jésus qui dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et Jean l'avait déjà dit au début de son évangile, il avait dit, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Et encore une fois, quand on lit le texte, on dit, « Mais j'aimerais être comme Moïse. Même si je ne vois pas trop la gloire de Dieu, il va passer, je veux voir quelque chose. » Mais Jésus nous dit, « Mais vous avez vu le Père. » Jean nous dit, « Mais si nous avons vu la gloire de Christ, nous avons vu la gloire du Père. » En fait, Moïse n'a pas pu voir Dieu, mais nous, nous le pouvons. Comment ? En regardant à Jésus. Jésus est venu pour que nous puissions connaître et voir Dieu. Voir Jésus, c'est voir Dieu, nous dit Jésus lui-même. Comment voir Jésus? En l'écoutant. Voir Jésus, c'est l'écouter. Et l'écouter, c'est être ses amis. Se tourner vers Jésus, c'est ouvrir la Bible. Et Jésus le dit, si vous aviez cru en Moïse, vous auriez cru en moi, parce que Moïse parlait de moi. Et c'est notre but, en parcourant le livre de l'Exode, c'est de voir la manière dont il nous parle de Jésus. Pour conclure, je résume, comment marcher avec Dieu, c'est la question qu'on voulait se poser ce matin, par la repentance, en abandonnant nos idoles, par l'obéissance, en écoutant sa parole, et par, avec confiance, en nous confiant en Jésus-Christ, notre médiateur. Je vais prier pour conclure. Père Céleste, merci parce que tu as marché parmi nous en Jésus. Et tu marches à nos côtés tous les jours. Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et la présence que nous pouvons expérimenter aujourd'hui n'est pas moins grande que celle que nous lisons dans le livre de l'Exode. Au contraire. Au contraire. Et Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons rechercher ta face et t'obéir, en nous détournant de tout ce qui nous éloigne de toi et en voulant être attentifs à ce que tu nous dis. Merci pour ce privilège de t'entendre directement dans ta parole et de pouvoir te parler directement par nos prières. Et Seigneur, merci parce que nous sommes appelés tes amis. Nous sommes appelés tes amis et nous avons ta faveur, Seigneur, nous qui plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Merci parce que son œuvre est parfaite et que même quand nous sommes imparfaits, quand nous désobéissons, ta faveur reste sur nous grâce à l'œuvre de Christ. Que cette vérité glorieuse puisse nous accompagner cet après-midi et cette semaine, Seigneur. Et que les autres puissent remarquer autour de nous que nous sommes différents parce que tu es présent en nous. Pour ta gloire et au nom de Jésus-Christ. Amen.